B.B. Warfield n'était pas séminariste au plan de l'eschatologie. Est-ce que c'est une question que vous souhaiteriez commenter d'une manière ou d'une autre?
Le seul commentaire que je pourrais faire à cet égard, c'est que oui, il était post-millénarisme, mais d'un post-millénarisme très très sobre, très modéré, qui n'a pratiquement rien à voir avec la tendance théonomiste récente, l'idée d'une restauration du système de gouvernement que la loi de Moïse impliquait pour Israël, d'une société régentée par la loi divine et avec le contrat physique exercé sur ceux qui seraient recalcitrants. L'idée clé chez Warfield, c'est l'idée de la victoire de l'évangile, d'une évangélisation qui finit par conquérir pratiquement tous les humains vivant sur la terre. De telle sorte que c'est un règne de Jésus-Christ, un règne spirituel de Jésus-Christ, mais il n'en tire pas de conclusion très forte dans le domaine politique, par
Oui,
exemple.
de tout ce que j'ai lu un petit peu Warfield maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas reconstituer une théologie même de l'État, de ce qu'il écrit. Donc c'est simplement pas une question qui se pose. Par contre, il y a une victoire de l'Évangile qui
Voilà.
doit pénétrer
Ce qui
tout le
correspond
monde.
à un post-séminarisme qui a été quand même très présent, y compris chez les baptistes, au XVIIe siècle,
Et qui a participé de l'impulsion
au
missionnaire,
XVIIIe siècle,
à cette époque-là.
et qui a donné de l'énergie au mouvement missionnaire. Je me rappelle aussi avoir lu, je crois que c'est dans son livre sur les psaumes, peut-être sur le psaume 72, si ma mémoire
Probablement
ne
sur
me
le
trahit
72.
pas, de Spurgeon, qui dit hésiter entre pré-millénarisme et post-millénarisme. Alors moi, je n'adopte ni l'un ni l'autre, hein, comme vous le savez, comme Calvin, je suis un millénariste, mais Spurgeon, précisément, envisageait un test post-millénarisme qui correspond à la position, non pas de tous, mais de nombreux puritains, réformés baptistes ou baptistes. Donc, effectivement, ça a été une position quand même très largement présentée que Warfield a reprise à son compte, mais avec une exégèse du chapitre 20 de l'Apocalypse qui convient aux amillénaristes comme moi. Je souscris à l'exégèse, grosso modo, qu'il a défendu de ce passage.
Il a une interprétation un peu étonnante, je l'ai plus dans les détails des dernières clauses hein, par rapport à la révolte de Gog et Magog, qui est un petit peu étonnant, je me rappelle avoir tiqué dessus, mais c'est vrai que, grosso modo, de toute manière, la manière dont on envisage, enfin, certaines formes de post-millénarisme sont finalement pas très éloignées de certaines formes d'amillénarisme, dans un sens, si c'est un post-millénariste qui ne parle pas d'un règne de 1000 ans littéral, eh bien, la négation de la littéralité des 1000 ans fait que, dans un sens, ces post-millénaristes sont amillénaristes, et d'un autre côté, on peut être amillénariste et optimiste sur la propagation de l'Évangile, et donc, dans ce sens, l'amillénarisme peut se rapprocher grandement du post-millénarisme. J'ai lu il y a pas très longtemps un post de Keith Mathison qui avait écrit en 1990 un livre qui s'appelait Post-millénarisme, an eschatology of hope. Et il écrivait, en fait, si je devais republier le livre aujourd'hui, je garderais simplement le sous-titre comme titre, une eschatologie d'espérance, une eschatologie positive, avec l'idée, ce qui est dominant ici, c'est l'idée d'un optimisme sur la capacité de l'Évangile à se répandre dans le monde. Et quand on va sur Apocalypse 20 et qu'on voit que le diable est lié pour ne plus séduire les nations, eh bien, c'est souvent l'argument des pré-millénaristes, c'est de dire, ben, regardez le monde dans lequel on est, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est dans le millénium aujourd'hui, quand on voit tout le mal qu'il y a aujourd'hui? Mais la ligature du diable, ici en Apocalypse, elle concerne précisément le droit qu'il avait avant et qu'il perd à ce moment-là, du millénium, de séduire toutes les nations et d'empêcher la propagation de l'énergie. Et donc, en ce sens, on peut se demander si on peut pas cette nomenclature rigide entre pré-millénarisme a- et post-millénariste, entre les amillénaristes et les post-millénaristes, est-ce qu'elle n'est pas si, elle n'est pas parfois un peu forcée?
Oui, vous avez raison, je suis d'accord avec, pour moi, la différence clé quand même concerne ce qu'on peut appeler optimisme ou pessimisme quant au monde, quant à la figure du monde. Je crois qu'en effet, on peut être optimiste dans ce sens que l'œuvre de Dieu se poursuit, que son règne avance, que le Seigneur Jésus, assis à la droite du Père, gouverne l'histoire et triomphe de tous ses ennemis, en attendant le triomphe du dernier ennemi, qui est la mort. Dans ce sens, je pense qu'on peut ratifier ce qu'on appelle l'optimisme, mais je pense que l'Écriture nous présente, en ce qui concerne la figure du monde, dans lequel tout cela se déroule de manière assez invisible, cette extension du règne de Dieu. Quant à la figure du monde, il me semble que le Nouveau Testament est pessimiste, qui nous présente une évolution vers le pire. Et c'est pour ça que je ne suis pas post-millénariste, comme l'était Rofield.